article sur la fameuse question « Qu'est-ce que yoga ?» et plus précisément sur le sujet « Les yamas et niyamas ». Au cœur de la pratique du yoga, les célèbres yamas et niyamas occupent une place prépondérante. Tous les professeurs de yoga les ont appris, intégrés dans leur quotidien et mis en application dans leur enseignement. Ils sont incontournables, à tel point qu'ils sont proposés aux élèves comme un élément de base nécessaire afin d'entrer dans la compréhension d'une démarche éclairée. Ainsi, ils sont énumérés, expliqués en tant que commandement du bon citoyen yogi dès qu'il faut répondre à l'inévitable question « Qu'est-ce que yoga ?» C'est à la lumière des célèbres sutras de Patanjali que l'enseignant puise la réponse. Intervient alors une liste. Les fameux yama et niyama aux allures des tables de la loi. De toute évidence, il y a entre les deux des similitudes manifestes. Elles découlent de leur bienveillance respective. Mais il est un point nécessaire de relever et qui malheureusement est très souvent négligé. Ce détail se situe au niveau de la place qu'occupe le sutra 2.29, mentionnant la fameuse liste, au sein de l'œuvre complète des Yoga Sutras. Si nous comptons les 51 sutras du premier chapitre avec les 28 sutras du chapitre 2, nous trouvons 79 sutras précédant l'énumération des yama niyama. Pourtant, dans la majorité des cours de yoga contemporains, les professeurs bien intentionnés énumèrent les yama et niyama comme le viatique permettant d'atteindre la béatitude à bon prix. Posons-nous donc la question, à savoir, pour quelle raison Patanjali n'en fait pas autant? Pourquoi prend-il la peine d'expliquer 79 sutras avant d'énumérer ce qu'il conviendrait d'observer scrupuleusement, de suivre religieusement afin d'atteindre le nirvana? L'exemple le plus célèbre est le fameux Ahimsa, traduit par la non-violence, qui a donné lieu à quantité de dérives touchant même la mode, avec la profusion des vêtements à fleurs. Nous pouvons sourire, mais combien de personnes sont encore piégées dans ce concept mal compris d'une non-violence factice entraînant des effets inverses. Patanjali, dans son infinie sagesse, a pris le temps d'expliquer le but du yoga et de donner les moyens pour l'atteindre. Prenons juste le sutra précédent, celui du 2.28, qui répond à la question essentielle, à savoir l'effet du yoga. Patanjali, en quelques mots bien choisis, affirme. Comme les impuretés sont éliminées à travers l'observance des membres de yoga, un éveil progressif des connaissances se produit jusqu'à l'illumination. Et le sutra donc suivant, le 2.29, nous présentera donc les moyens à mettre en application pour atteindre notre objectif. Il faut être clair et déterminé. Ne nous trompons pas. Le yoga ne sert pas à soulager la sciatique, ni à vaincre le stress. Il ne sert pas non plus à devenir un baba cool. Les yama niyama sont avant toute autre chose des moyens de connaissance. Ils n'en sont en aucun cas des règles à appliquer sans se poser de questions. Ils doivent susciter une écoute attentive, débarrassée de tout préjugé afin de ressentir de l'intérieur, par la contemplation silencieuse, la raison pour laquelle nous nous sommes éloignés de ces principes de base que devrait suivre l'humanité entière. Pourquoi ce questionnement est-il si important? D'une part, afin de faire totalement sien les principes énoncés par Patanjali, en toute conscience, en pleine acceptation et non pas par soumission. Ou une obéissance servile émanant d'une auto-restriction, voire d'un refoulement, ce qui est totalement contraire à la voie du yoga. D'autre part, afin de ressentir au plus profond de soi, par la technique de l'introspection, comment nous nous situons face à ces principes énumérés. Je vous donne cet enseignement de Bouddha qui va dans ce sens. Ne croyez pas en quelque chose simplement parce que vous l'avez entendu. Ne croyez pas en quelque chose tout simplement parce que des gens le disent et que c'est répété par de nombreuses personnes. Ne croyez pas en quelque chose simplement parce que c'est écrit dans vos livres religieux. Ne croyez pas en quelque chose sur la seule autorité de vos professeurs et des anciens. Ne croyez pas aux traditions parce qu'elles ont été prononcées par de nombreuses générations. Mais, après observation et analyse, lorsque vous trouverez que tout est en accord avec la raison et est propice au bien et au profit de tous et chacun. Alors, reprenons notre exemple dans le contexte du principe Ahimsa traduit par la non-violence. Si quelqu'un vous invective, êtes-vous immédiatement prêt à vous battre? Les injures proférées vont-elles engendrer un flot de colère, se traduisant par un affrontement physique? Ou à l'inverse, avez-vous fondu en larmes? Si la personne qui vous a agressé verbalement s'autorise ensuite à vous bousculer violemment, êtes-vous resté tétanisé ou bien au contraire, l'avez-vous laissé en réaction ensanglanté sur le pavé? Autrement dit, avez-vous eu la bonne réponse au bon moment? Avez-vous maîtrisé vos émotions? Pour faire simple, comprenons. Avant d'appliquer strictement la liste des yama niyama, ce qui demande en fait simplement de la volonté, mais cela n'aboutira qu'au contrôle des émotions et non à la maîtrise. En outre, comprenons également que toute volonté d'acquérir l'une ou l'autre vertu, qualité, est vouée à l'échec. Les vertus, les unes après les autres, se révéleront d'elles-mêmes, naturellement, comme le résultat du travail personnel. Faisons un bond dans l'espace et le temps, afin de reconsidérer une célèbre parole qui fait couler encore aujourd'hui beaucoup d'encre. C'est celle de Jésus-Christ, rapportée par Luc. Il dit « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. » Sans aucun doute, cette idée dérange. L'image de l'imbécile dépouillé de son bien et qui de surcroît distribue le peu qui lui reste a de quoi interpeller. Est-il idiot ou lâche? En fait, il s'accorde le temps de la maîtrise. Même en une fraction de seconde, le temps n'est qu'un artefact. Cette attitude va beaucoup plus loin encore. En rachetant la mauvaise action par la transformation du vol en don. Du fait de cet acte, le fameux quelqu'un, totalement déstabilisé, peut alors saisir l'opportunité d'une remise en question. Alors cela nécessite un éclaircissement sur le contrôle et la maîtrise. Ce n'est pas la même chose. Le contrôle fait référence au registre du double tenu par l'administration et servant à vérifier l'authenticité des actes. Dans le langage politique et administratif, le contrôle et l'action sont opposés. Par extension, ce terme invite à la surveillance étroite et à la censure. On peut aisément comprendre que le contrôle que nous nous imposons nous oblige à contourner notre nature immédiate en nous imposant un contre-rôle à jouer à l'image des acteurs du théâtre grec qui portaient un masque. La maîtrise est d'un autre ordre. Elle découle du mot « maître », c'est-à-dire celui qui commande les esclaves. La comparaison se fait naturellement si on modifie le mot « esclave » par « émotion ». Mais il faut ajouter une autre notion, celle touchant à l'enseignement, à l'instruction. Nous comprenons que, dans le sujet qui nous occupe, il convient d'écouter l'enseignement, de comprendre, d'intégrer par soi-même afin de maîtriser les émotions qui perturbent et qui nous condamnent à rester esclaves de nous-mêmes. Je vous laisse examiner sur le site l'image de l'arbre imaginée par le maître yogi Iyengar et qui met cette fameuse liste sous forme d'un arbre. Il est célèbre. Aujourd'hui, nous trouvons bien d'autres illustrations qui prennent ce support, ce même support de l'arbre, et qui rivalisent d'élégance. Nous avons opté pour l'original. En observant ce dessin, vous remarquerez que tout est écrit en sanskrit afin de poser les éléments dans leur appellation première. En effet, chaque terme de cette liste demande une explication profonde. Soyons vigilants envers les traductions simplistes qui enferment tout un concept à l'intérieur d'un seul mot. D'autre part, voyez que les fameux yama-niyama font partie d'un tout au même titre que Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Cet ensemble constitue les 8 membres du yoga. On parle d'Ashtanga yoga. Attention, ce terme ne doit pas être confondu avec la pratique qui se réfère à ce même nom, mais qui a été développée par Krishnamacharya dans les années 1930. Il s'est simplement servi d'un mot existant. Pour terminer cet article, je vais vous rappeler qu'il est très important de considérer l'Ashtanga Yoga selon le principe de base de la pensée indienne qui nous invite à ne pas s'inscrire dans la recherche du résultat. Et pour conclure, je vous propose cette citation de Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ».